Les matins de France Culture. Florian Delorme.
Et 15 ans après l'apparition de La Horde du Contrevent, l'écrivain Alain Damasio publie Les Furtifs, un roman d'anticipation qui pointe du doigt les dérives de l'usage des technologies numériques, la montée en puissance des géants du net dans une critique poétique d'un monde économiquement ultra-libéral. L'auteur décrit une société du contrôle où chacun est pisté en permanence. Mais loin de coller à la théorie de l'effondrement, Alain Damasio plante dans cette dystopie proche du réel les graines de la révolte avec des militants de tous bords qui cherchent à se soustraire du système d'encadrement et des créatures capables d'échapper à ce monde hyper tracé. Bonjour Alain Damasio.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes romancier, écrivain de science-fiction. On parlera de science-fiction, mais en fait, quand on parle de science-fiction, on parle beaucoup du présent. Et justement, le présent, je voudrais qu'on en parle. On est aujourd'hui le 1er mai, et comme chaque 1er mai, fête du travail, des gens vont défiler dans les rues de France. Sauf que ce millésime pourrait ne pas être tout à fait comme les autres, puisqu'il s'inscrit, c'est vrai, dans un contexte de crise sociale profonde, avec un mouvement des Gilets jaunes qui pourrait faire de cette journée le point culminant de plusieurs mois de contestation. On a déjà parlé sur les réseaux sociaux de journée de l'apocalypse, avec des Gilets jaunes et des Black Blocs qui projettent de transformer Paris en capitale de l'émeute. Tout à l'heure, Camille Manière parlait de journée historique concernant le Venezuela, concernant le Japon. Est-ce que vous pensez que ce 1er mai 2019 a quelque chose d'historique et pourrait marquer un tournant ?
Moi, je me méfie toujours des moments historiques qui sont prévus ou préparés, parce que souvent ils se dégonflent aussi vite qu'on les a gonflés médiatiquement. Donc peut-être que l'enjeu est moins le 1er mai que le 4 mai, c'est-à-dire ce qui peut se passer après dans les samedis suivants. Et la réinvestissement, j'ai envie de dire, des ronds-points et de ce magnifique travail qui a été fait de convivialité dans ces ronds-points, dans ces espaces-là. Aujourd'hui, je pense qu'on essaye, que le gouvernement essaye, comme d'habitude, de mettre sous tension une manifestation extrêmement importante, symboliquement, qui effectivement peut être un moment de convergence des luttes, ou en tout cas un moment de coalescence, ou de connivence des luttes.
Vous y croyez à cette convergence des luttes? Parce que c'est vrai que jusqu'ici, dans le mouvement des Gilets jaunes, les syndicats étaient restés un tout petit peu en retrait. Là, il semble qu'ils affichent un soutien un peu plus fort.
Oui, j'ai vraiment l'impression, le côté... là, je suis venu, vous avez vu, avec la parka orange, donc c'est côté gilet rouge et gilet jaune qui se mélangent. Et puis gilet vert aussi. C'est-à-dire que je crois, effectivement, en tout cas, nous, ce qu'on voit à Marseille, c'est assez net. Il y a des convergences entre les jeunes qui manifestent pour le climat, les gilets jaunes, les syndicats. Donc on le voit sur le terrain, en tout cas, on voit ces amitiés se tisser.
Vous pensez que les militants de la fin du mois pourraient s'allier aux militants de la fin du monde ?
Oui, sachant qu'on est très loin quand même de la fin du monde. Moi, je crois assez peu quand même aux théories de l'effondrement, mais en tout cas, la fin d'un certain monde, oui, d'un certain type de civilisation qui est très énergivore. Mais en tout cas, cette date, oui, elle est très importante. Maintenant, j'ai juste envie de dire que... Le gouvernement essaie de mettre en tension, c'est-à-dire prépare effectivement une police prête à être extrêmement ferme, comme le dit Monsieur Macron, c'est-à-dire prête à frapper en toute impunité les manifestants qui ne voudront pas faire ce qu'on leur dit de faire et manifester là où on leur dit de manifester. Je pense qu'il faut éviter ça, esquiver ça, de pas rentrer dans ce jeu d'opposition frontale et essayer d'être justement furtif.
Donc il faut éviter la violence pour vous, parce que votre œuvre générale, parce que dans Les Furtifs c'est évidemment le cas, mais c'était déjà le cas dans La Zone du Dehors qui était paru en 99, on était quasiment en présence d'un manuel, d'un guide de la révolte avec un groupe d'insurgés qui ourdit un soulèvement contre la société totalitaire. Quelle place justement, selon vous, peut avoir la violence dans la révolte que vous préconisez?
Moi, je crois que on peut pas se révolter sans colère. Voilà, il y a forcément une colère qui naît à partir du moment où on n'est pas écouté, où on subit une exploitation continue depuis des années. Moi, je dis souvent qu'on est on sort nous des 30 honteuses après avoir vu nos parents sortir des 30 glorieuses. C'est-à-dire que nous, on a été la génération qui a connu toutes les régressions sociales, toutes les contre-réformes. Et au bout d'un moment, évidemment, ça génère une colère très forte, très sédimentée, très stratifiée dans les gens et qui peut basculer vers la violence. Moi, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que si la désobéissance civile suffit, si les manifestations pacifiques suffisent, si nous sommes écoutés par le gouvernement, par l'État, si quand 70% de la population s'oppose à une politique, cette politique change, il n'y a aucune raison que ça bascule vers la violence. Maintenant, si ça ne suffit pas, il faut se poser la question des modes de lutte et du renouvellement de ces modes de lutte. Mmh. Voilà. Ce que les Gilets jaunes ont apporté, c'est ça, notamment sur la forme manifestation. Ils ont inventé un type de manifestation qui est beaucoup plus épars, beaucoup plus dispersé, beaucoup plus mobile et qui renouvelle cette forme très très classique du bastination qu'on avait jusqu'ici. Et tant mieux, il faut des alternatives. Donc moi, je suis pas s'opposer à la violence comme ça d'un point de vue moral, à partir du moment où on voit que d'un point de vue factuel, c'est la police qui aujourd'hui est le première source de violence, quoi. Mmh. Donc il faut quand même le dire. Voilà, quand on parle de violence, on a toujours l'impression que c'est le côté Black Bloc qui se concentre de casser des vitrines et de mettre le feu à la devanture du Fouquet's. Et en face, on a quand même, 23 éborgnés, on a 5 mains arrachées, on a une morte, on a des traumatismes crâniens, on a 700, on a 700 blessures. Enfin, c'est énorme. Le bilan policier sur ces manifestations est énorme, quoi.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut répondre par la violence?
Pas forcément. Mais en tout cas, il faut essayer d'esquiver et il faut à un moment donné, moi je pense, remettre en vulnérabilité les gens qui exercent cette violence et leur faire sentir et comprendre que, voilà, ils pourront pas continuer indéfiniment comme ça. Il faut qu'à un moment donné, ces gens-là soient concernés, soient touchés, soient impliqués. Il n'est pas normal que quelqu'un, pour moi, comme Bernard Arnault, qui a la tête d'une fortune de 77 milliards quand même d'euros, ce qui correspond, j'ai refait le calcul hier, mais à 3,2 millions d'années de SMIC chargés avec formation, coût d'embauche, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il faudrait que Lucie ait été salariée pendant 3,2 millions d'années jusqu'ici pour équivaloir. Donc c'est des sommes complètement dingues, complètement folles. Et voilà, est-ce que Bernard Arnault se mobilise, à part pour Notre-Dame, pour essayer d'améliorer la situation des citoyens français, alors que sa fortune vient évidemment des travailleurs qui ont bossé pour lui. Donc moi je pense qu'en tout cas moi je suis pas quelqu'un qui va condamner les violences sur les biens, qui va condamner ce qui se passe aux Champs-Élysées, parce que je pense que à un certain moment, les Gilets jaunes le disent, à un certain moment c'est ce qui fait réagir aussi le gouvernement, quoi.
C'est parfaitement clair. On reviendra tout à l'heure en deuxième partie, on reparlera de ces mobilisations, ces modes de contestation, parce que dans votre dernier ouvrage Les Furtifs, vous proposez quelques pistes extrêmement intéressantes.
De proposer du positif,
on y reviendra. Vous dites à propos de ce mouvement des Gilets jaunes qu'il a été une divine surprise. Pourquoi est-ce que vous avez été étonné finalement ?
Moi j'étais très surpris parce que je sortais comme beaucoup de militants et de citoyens engagés des manifestations de la loi travail qui ont été vraiment une régression sociale très forte et par rapport à ça j'avais l'impression que la SNCF arrivant en plus après et étant aussi une défaite en tout cas en point de vue des combats que voilà le rouleau compresseur ultralibéral que Macron amène, hein, puisque pour moi il est vraiment mandaté par une forme d'oligarchie qui vient et qui lui demande de faire passer tout un ensemble de lois qui permettront aux patrons de pouvoir exercer leur fonction sans aucune résistance en face. Donc j'avais vraiment l'impression que là on était parti pour un tour. Voilà.
Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que par exemple c'est l'affaire Benalla? C'était il y a tout juste un an, crise politique et institutionnelle profonde. Est-ce que c'est ça qui d'une certaine manière a déclenché quelque chose justement?
Moi je vois plutôt l'affaire Benalla comme une diversion en réalité.
Non, je pense pas.
Ouais, une diversion. C'est-à-dire que c'est typiquement quelqu'un qui n'est pas du sérail et puis qu'on va stigmatiser et de façon relativement facile. Bien sûr, Benalla a fait des choses qui sont absolument anormales, mais pour moi, c'est relativement anecdotique.
Mais ça voudrait dire qu'il y a eu une intention du gouvernement de mettre...
Oui, bien sûr. C'est beaucoup moins important pour moi que, par exemple, que le fait que la loi de travail passe, quoi. C'est beaucoup moins important. Voilà. Donc, non, la divine surprise, c'est que des gens qu'on ne pensait pas capables de se politiser ou qu'on pensait écraser par le système actuel, tout d'un coup, on relevait la tête. Et ça, c'est très nouveau. Voilà. Et c'est une population, c'est un type, on le voit sociologiquement, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui appartiennent au premier cercle des inclus, comme on dit, et qui, jusqu'ici, essayaient de se débrouiller tout seuls, dans la dignité, en travaillant et en pensant qu'en travaillant comme il le fallait, qu'en votant comme on leur disait de voter, ils pourront avoir la vie qu'ils rêvaient d'avoir. Et ils se sont rendus compte que non. Voilà, à cause de ces 30 honteuses dont on parlait, à cause de ces régressions constantes, au bout d'un moment, ça ne suffisait plus. Et ils ont dit, stop. Et ça, c'est vraiment une surprise, effectivement.
Alain Damasio, c'est la journée aujourd'hui, la fête du travail. Parlons un petit peu de travail. La semaine dernière, l'OCDE a sorti un nouveau rapport sur l'automatisation et l'emploi qui révélait que 14% des emplois actuels seront menacés dans les 15-20 prochaines années, sans compter qu'un tiers des emplois seront profondément transformés. La question du travail, elle est fondamentale. Vous avez participé, c'était l'année dernière, à un recueil de textes d'écrivains de science-fiction. Vous êtes, vous, écrivain, au bal des actifs, demain, le travail. Comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que, finalement, cette crise du travail est inquiétante? Ou est-ce que, pour vous, elle est peut-être aussi une opportunité pour, pourquoi pas, aussi libérer les hommes du travail? Enfin, quel regard vous portez là-dessus?
Oui. Moi j'essaie d'être...
En tant que romancier.
J'essaie d'être très positif là-dessus. C'était marrant, ce recueil, qui est un très beau recueil, en l'occurrence...
Il était chez La Volte.
Ouais, qui est chez La Volte. Donc, moi, j'avais fait une nouvelle dessus, quoi, qui avait eu le Grand Prix de l'Imaginaire. D'ailleurs, je me fais un peu de compliments là-dessus. Mais c'était intéressant au sens où où c'était très difficile à faire. Moi, quand je me suis posé la question de l'avenir du travail, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans? Et en fait, très logiquement, effectivement, avec l'émergence notamment des intelligences artificielles, on a plein de métiers, comme le métier de journaliste en particulier, des métiers auxquels on ne s'attend pas d'ailleurs, ou des métiers d'analyse de la jurisprudence, ou des diagnostics médicaux. C'est-à-dire que plein de métiers, même intellectuels, vont pouvoir être automatisés. Et à partir de ce moment-là, effectivement, très logiquement, on va avoir une baisse de l'emploi. Donc moi, dans ma nouvelle, j'imagine qu'en gros, il reste plus que 20% de la population qui est réellement active. On a mis en place le revenu universel.
Réellement active, qui a un emploi, vous voulez dire.
Voilà, ouais, qui a un emploi. Et on a mis en place le revenu universel pour les autres. Donc, ce qui libère, si le revenu universel est assez haut, bien sûr, hein, mais ce qui libère beaucoup de temps, beaucoup de possibilités de vie, et des vies peut-être très enviables, pour ceux qui n'ont pas à aller au travail, donc moi ça je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Puis pour ceux qui vont au travail, comme tous les emplois automatisables et un peu les bullshit jobs sont traités par soit par des robots, soit par des IA, il ne reste que les travaux créatifs. Voilà. Et il n'y a plus que les créatifs qui sont en quelque sorte au travail. Et ça je trouve ça assez rigolo, parce que qu'est-ce que ça veut dire un travail créatif? Qu'est-ce que ça veut dire créer dans le cadre du travail? Et en tout cas, quand on a automatisé tout ce qui est redondant, routinier, itératif, mais il reste peut-être que la part la plus intéressante du travail. Donc on peut espérer, on peut rêver de ça.
Donc ça veut dire que le revenu universel dont vous nous parliez à l'instant, qui était l'une des propositions, on s'en souvient, de Benoît Hamon lors de la campagne des présidentielles, et qui d'ailleurs lui avait valu énormément de critiques à droite comme à gauche, vous pensez que c'est ce qui nous attend?
Moi,
on y viendra inexorablement.
Alors, moi souvent on dit que j'appartiens à la sphère de la gauche radicale, mais je suis très différent sur ce point-là du revenu universel, parce que moi j'y crois. Voilà, je crois que ce revenu est une chose qui peut être extrêmement positive. Beaucoup de gens pensent que c'est une façon de voilà d'entretenir une sorte de lumpen prolétariat et de mettre une société en place, une société à deux vitesses. Moi je crois au contraire que ça va libérer énormément de temps, énormément de liberté, du temps pour s'occuper des autres, pour s'occuper des personnes âgées, pour s'occuper des handicapés, des personnes qui ont des difficultés, pour éduquer encore mieux les enfants. Donc moi je vois ça comme quelque chose de très très positif quoi, effectivement.
Par ailleurs, le revenu universel c'est quelque chose qu'on voit dans la gauche effectivement, peut-être la gauche radicale, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit à droite hein. Donc c'est assez transversal en réalité.
Mais voilà, évidemment la droite l'envisage pas du tout comme la gauche l'envisage. Mais en tout cas, c'est potentiellement une très bonne solution et ça répond à cette question de dire bah oui, la tendance lourde, de toute façon, de l'emploi est à la réduction, parce qu'on l'automatise de plus en plus, et on peut pas lutter contre ça. Donc on peut ralentir ces phénomènes-là, mais à terme, dans 50 ans, il restera extrêmement peu d'emplois, effectivement, utiles.
Les partis politiques, on voit qu'il y a de plus en plus de rejet des partis politiques, et d'ailleurs pas seulement en France, c'est vraiment un mouvement assez général, et d'une certaine manière, le mouvement des Gilets jaunes dont on parlait, c'est à la fois le symptôme et le symbole de ce rejet. Que vous inspire le fait précisément que le débat public s'organise désormais essentiellement à l'extérieur des partis politiques et qu'il soit incapable finalement de l'organiser? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'il y a urgence à repenser le débat public dans des formes partitaires ou en tout cas dans des formes plus institutionnalisées? Ou au fond, est-ce que il est pas plus mal de le voir précisément dans des formes un peu étranges, inattendues, comme les Gilets jaunes, comme Nuit debout, ou d'autres encore?
Oui, moi là encore, j'ai une vision assez optimiste. On a toujours tendance à voir ce qu'on perd, mais on voit pas ce qu'on gagne et on voit pas ce qui arrive de nouveau. On est attaché, c'est normal, à l'existant, et quand quelque chose mute, on est là à s'accrocher, à se dire « Ouh là là, c'est une catastrophe, ça descend, c'est un crépuscule, etc. » Moi, je vois, au contraire, dans le mouvement des Gilets jaunes et ce qui se passe autour, c'était pareil pour Nuit debout, c'est pareil pour les ZAD, c'est pareil pour tous ces mouvements-là, je vois beaucoup d'intelligence là-dedans. C'est-à-dire, et je vois beaucoup... surtout de maturité, voilà, de maturité politique. C'est-à-dire qu'un mouvement qui dit on va arrêter avec les porte-parole, on va arrêter avec les chefs, on va arrêter avec ces systèmes-là qui n'ont pas fonctionné, c'est un mouvement qui sait que profondément il peut s'auto-organiser. Voilà. Et moi je crois aux formes d'auto-organisation. Encore une fois, la ZAD est un excellent exemple, mais les Gilets jaunes aussi. C'est-à-dire que localement, ils s'organisent, ils mettent en place des cabanes, ils mettent en place des marchés, ils mettent en place des fonctionnements collectifs, ils se retrouvent ensemble pour faire des choses, ils mettent en place des réseaux d'amitié.
Mais
et ça, c'est nouveau.
Est-ce que tout cela est durable? Ah, oui, et qu'est-ce qui peut en sortir, Alain Damadio? C'est ça le problème.
C'est un monde un peu en archipel, c'est un monde fragmenté, c'est-à-dire un monde où effectivement, on considérera plus qu'il faut diriger d'un seul bloc 67 millions d'habitants, mais que localement, il y aura des fonctionnements individualisés ou en tout cas des collectifs locaux qui seront forts. Je donne un exemple. Moi, j'ai vécu dans le Vercors pendant 4 ans. Et là, ils mettent en place, mais c'est vraiment la population, pour le coup, c'est absolument pas les élus, ils mettent en place un collectif de transition écologique qui mobilise énormément de monde. C'est-à-dire qu'ils se disent, comment on peut se déplacer en consommant moins de carburant? Comment on peut construire de façon écologique? Comment on peut faire l'agriculture locale qui soit bio, etc. Ils se posent toutes ces questions, ils s'organisent ensemble et ils le font. Et ils n'ont pas besoin d'un État, ils n'ont pas besoin d'une mairie, ils n'ont pas besoin... Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pris en main les choses. Et je pense que la vraie politique, c'est ça, et la vraie démocratie, c'est ça.
Mais c'est
à partir du moment où les gens
prennent
en main les choses.
C'est pas ce qui se passe dans le mouvement des Gilets jaunes. Vous décrivez des initiatives effectivement extrêmement intéressantes,
mais
s'agissant des Gilets jaunes, on voit mal ce qui peut en sortir. On voit mal comment ça peut se transformer, s'institutionnaliser. On voit mal le mouvement des Gilets jaunes peser dans le paysage politique. On avait tout à l'heure dans les journaux Sophie Delpont qui nous expliquait qu'effectivement, il y aura bien une liste des Gilets jaunes aux européennes. Mmh. On la mesure, les sondeurs la mesure à 3-4%. On voit bien qu'on a du mal à peser.
Parce qu'on est encore attaché à ces formes globales et massifiées. C'est fort institutionnel. Moi, si je vous donne l'exemple de mon livre dans Les Furtifs, par exemple, j'ai cette idée que, les villes, effectivement, sont empruntes sur le marché bancaire international, donc se privatisent, les villes les plus intéressantes sont rachetées par les multinationales. Mais l'aspect intéressant, c'est pas le côté dystopique de dire LVMH rachète Paris et Orange rachète Orange. C'est de dire que il y a des îles, dans mon livre, c'est comme ça, il y a des îles comme Ouessant, comme Groix, comme l'île de Porquerolles, et il y a aussi des villes qui sont rachetées par leurs habitants. Voilà. Ou qui sont, en tout cas, réinvestis par leurs habitants et sur lequel l'organisation se fait par les habitants directement. Et ça, je pense que c'est ce genre de choses qui va arriver. C'est-à-dire qu'on aura un archipel de petites zones, de petits îlots, et c'est comme ça que le capitalisme progressivement va être transformé, peut-être révolutionné, en tout cas retourné. C'est par la définition, comme ça, de petits îlots qui vont émerger dans l'océan massif du capital et qui progressivement vont faire des archipels et vont construire des choses qui sont intéressantes.
Par une fragmentation du territoire. Que ça, c'est l'avenir. Oui. Et Alain Damasio, vous êtes un romancier de science-fiction, donc vous vous projetez perpétuellement dans l'avenir. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore là-dedans. Et aujourd'hui,
on est encore dans
un contexte de d'État-nation ou avec des politiques nationales, avec des corps intermédiaires, des syndicats qui d'ailleurs peut-être ne font pas exactement ce qu'on attendrait d'eux, en tout cas on en attendrait peut-être plus, parce que justement si le débat s'organise comme ça dans la rue sur les ronds-points, c'est peut-être précisément parce que les corps existants ne font pas leur travail. Est-ce que les syndicats,
certain,
par exemple, n'ont pas une responsabilité de ce point de vue?
Les syndicats ont une responsabilité énorme puisqu'ils n'ont pas joué leur rôle. C'est-à-dire, ils n'ont pas joué leur rôle de défendre les travailleurs. Donc à un moment donné, ils le payent aussi. Ils ont été dans une sorte de collaboration ou de qui est relativement coupable. Je pense notamment à la CFDT qui n'a pas défendu et qui s'est pas battu contre les contre-réformes terribles qui étaient en place. Mais simplement, il faut bien avoir en tête que une politisation, c'est un processus très long. Voilà. C'est-à-dire que là, se crée en ce moment et dans la jeunesse et au niveau des Gilets jaunes, se crée, j'ai envie de dire, des mouvements collectifs où les gens recommencent à prendre en main leur destin et recommencent à se politiser. Et ça sera très long, c'est-à-dire que ça va prendre certainement plusieurs années. Il faut que les gens s'auto-éduquent à ça, il faut qu'ils aient l'habitude d'aller manifester. C'est pas acquis tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le rejet des hiérarchies, le rejet de l'idée que un président peut gouverner 67 millions de personnes de façon saine et viable... Ça, c'est quand même quelque chose d'acquis, de neuf, et qu'on n'attendait pas, effectivement. Donc moi, je pense que c'est un processus en cours qui va peut-être vraiment germer dans 10 ans, 15 ans, de façon vraiment viable. Ouais.
On va reprendre notre discussion dans une vingtaine de minutes. Alain Damasio, je rappelle que vous êtes romancier, écrivain de science-fiction. Pour ceux qui ne le savent pas, vous sortez votre troisième livre, Les Furtifs, qui est paru aux éditions La Volte. On en parlera évidemment en deuxième partie, et on continuera aussi de parler de l'actualité, parce que la science-fiction, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire éclairer le présent.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Florian Delorme.
Et on reprend notre conversation avec Alain Damasio, romancier, écrivain de science-fiction. Vous sortez votre troisième roman, Les Furtifs, qui est paru chez La Volte. Votre dernier roman, c'est le récit d'un couple à la recherche de leur fille disparue mystérieusement. Le père, Laure Cavarez, est un militaire qui a intégré l'unité des chasseurs de furtifs. Les furtifs étant de petits êtres assez étranges qui se cachent dans les angles morts, là où ils échappent à la vision des humains. Et lorsque malencontreusement ils tombent sous le regard de l'un d'eux, eh bien ils se sédimentent et meurent instantanément. On est dans un univers où la société vit dans un régime de contrôle absolument permanent. Et justement, je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que dans notre présent aussi, dans notre monde contemporain, on est confronté à cette question de la surveillance qui est peut-être en train de se généraliser. Dans son dernier rapport annuel publié il y a quelques jours, la Commission de contrôle des techniques de renseignement constate une hausse de 3% du nombre de personnes mises sur surveillance. Alors, dit comme ça, ça fait pas énorme, mais quand on regarde parmi les modes de surveillance qui peuvent être mis en œuvre, il y a un mode de surveillance, de demande, de géolocalisation en temps réel de personnes à surveiller. Et ce nombre-là, il a littéralement explosé en 2018, 5191 demandes, c'est-à-dire c'est 38% de plus que l'année précédente. Il y a vraiment une logique par laquelle on craint au fond de plus en plus d'avoir des individus qui ne seraient pas traçables, qui ne seraient pas géolocalisables. Finalement, on a de moins en moins le droit d'être des furtifs, pour reprendre le titre de votre roman.
Oui, c'est même l'objectif un peu du livre au départ. L'idée est née comme ça, c'est-à-dire l'idée a été de se dire on est en régime de contrôle depuis, on va dire, les années 90. Hein, c'est ce que Gilles Deleuze avait anticipé magnifiquement, c'est-à-dire qu'on sortait du régime disciplinaire pour rentrer dans un régime plus insidieux, plus subtil, plus souple. Et puis ce régime de contrôle, il a dérivé encore plus loin grâce à l'émergence du numérique ou à cause de l'émergence du numérique, c'est-à-dire qu'on est dans un régime de traces, c'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit dans les mondes virtuels et numériques dans lesquels nous passons énormément de notre temps, ou que ce soit dans la ville elle-même, on est producteur de traces, et ces traces peuvent être utilisées soit par les gouvernements, soit par les multinationales pour effectivement faire de nous ce qu'on a envie d'en faire. Donc c'est effectivement extrêmement inquiétant, cette double couche, et on le voit même au niveau policier, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a effectivement une couche, j'ai envie de dire réelle, assurée par les drones, assurée par les caméras que portent maintenant même les policiers, assurée par la biométrie, etc. Et face à laquelle on peut effectivement que masquer son visage si on veut pas être fiché. C'est ce que comprennent pas les gens quand ils attaquent les Black Blocs. Ils disent mais pourquoi ils sont masqués, ça fait peur, etc. Bah ils ont pas tellement le choix parce que effectivement le fichage est systématique. Et puis il y a la couche surtout numérique et virtuelle qui est en ligne. Et là c'est extraordinaire, c'est-à-dire que vous baladez avec votre portable, effectivement, on peut vous géolocaliser en permanence par triangulation des antennes téléphoniques et retracer les cartes de vos déplacements. Donc ça potentialise effectivement une surveillance très très forte qui a amené le numérique. Voilà, c'est un outil qui est parfait pour assurer ce contrôle.
Alors justement, je voulais en venir un peu plus tard dans l'émission, mais puisque vous en parlez et que vous évoquez Deleuze, la question de savoir si effectivement c'est à cause ou grâce, vous le disiez, aux technologies du numérique. Revenons, d'abord on va écouter peut-être une archive de Gilles Deleuze. On est en 1987, c'est l'extrait d'une conférence des Mardis de la Fondation, et justement il évoque cette question de la surveillance.
Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qui sont, et qu'il faudrait appeler... C'est Burroughs qui prononçait le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Burroughs. Burroughs proposait un nom très simple, de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin, ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement.
Nous sommes entrés dans des sociétés de contrôle, disait Gilles Deleuze en mars 1987. C'est pas tout à fait un hasard si on choisit cette archive, parce que Gilles Deleuze, c'est quelqu'un qui a changé quasiment votre vision du monde. Et pour en revenir à la question que vous évoquiez juste avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on pointe du doigt, ce sont les nouvelles technologies, c'est le numérique qui constituerait cet outil par lequel s'opère notre propre surveillance, notre propre contrôle, ce qui est vrai. Sauf qu'à l'époque de ce discours en 1987, ces technologies dont on parle aujourd'hui, dont vous parlez dans votre roman, elles n'existaient pas encore. Et Deleuze considérait déjà qu'on était rentré dans des sociétés de contrôle. Alors jusqu'où est-ce qu'on peut vraiment, Alain Damasio, incriminer la technologie dans ce régime de contrôle? Et est-ce que finalement nos sociétés modernes ne seraient pas intrinsèquement enclines à produire ce régime de contrôle, au-delà de la question purement technologique?
Ouais, je pense que vous avez complètement raison. Ce qui est extraordinaire, outre la voix de Deleuze que j'adore, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le vrai écrivain de science-fiction, c'est Gilles Deleuze à ce moment-là. C'est-à-dire que 30 ans avant, il arrive à anticiper quelque chose qu'on va voir effectivement exploser. Et ça, c'est absolument remarquable. Mais ça veut dire que potentiellement, sociologiquement, psychologiquement, même d'un point de vue anthropologique, c'était effectivement latent dans la façon dont on envisageait le pouvoir. Moi, je crois que à partir du moment où les régimes disciplinaires ont été contrés par l'émergence de forces démocratiques, par le refus de l'autorité, par l'arrivée des années 70, par l'envie de dire ben voilà, la hiérarchie n'est plus quelque chose de supportable, il faut s'opposer à ça. Le pouvoir forcément a muté quoi. Et pour faire fonctionner une société quand la discipline ne fonctionne plus, et ben il fallait trouver un autre registre. Et cet autre registre, on en est aujourd'hui. Pour beaucoup, les acteurs. C'est-à-dire que ce qu'on dit pas assez sur le contrôle, on a toujours la logique complotiste en disant la police exerce le contrôle, la NSA, effectivement, le gouvernement, effectivement les multinationales aussi par les GAFA qui collectent ces traces et qui en extraient la plus-value. Mais on oublie de dire à quel point nous-mêmes, dans nos quotidiens, on est acteurs de ce contrôle.
Mais pourquoi est-ce qu'on accepte précisément ce régime de contrôle, de surveillance? Pourquoi est-ce qu'on est même dans cette servitude volontaire, d'une certaine manière?
Il y a plein de raisons, mais je pense qu'une des raisons, c'est que on a aussi en nous cette pulsion du contrôle. C'est pour ça qu'on l'accepte aussi bien qu'on l'exerce sur nous. C'est que, moi je le dis parfois, mais le père qui demande par exemple à être ami sur Facebook avec sa fille pour contrôler ce qu'elle fait, ce qu'elle regarde. La fille qui va regarder l'historique de son père pour regarder quel site il observe. Quand vous rentrez dans une société que vous allez être embauché, vous googlisez votre patron demande à un hacker d'aller voir vos comptes Facebook. Enfin,
c'est par pur voyeurisme
non,
ou il y a autre chose?
Je pense pas. Il y a une partie voyeuriste indiscutable, mais il y a aussi une volonté pour moi de conjurer l'incertitude. Voilà. Il y a une volonté de conjurer l'angoisse et l'incertitude. On a une volonté de contrôle ou un besoin de contrôle. Parce que dans une société qui est extrêmement instable, extrêmement individualiste, sur lequel les anciens liens communautaires qui nous rassuraient ne sont plus là, et on a besoin de se rassurer, notamment par la technologie, en ayant le maximum d'informations et en pouvant contrôler ou savoir ce que fait notre femme, ce que fait notre fils, ce que fait notre patron, ce que font nos gouvernements, etc.
Parce qu'on pense qu'on va gagner en sécurité?
Oui, je pense. En tout cas, en sérénité. Ça, c'est sûr. Donc, cette façon de conjurer l'angoisse et l'incertitude, je pense qu'elle est la source de ce besoin de contrôle. Et du coup, on l'accepte d'autant mieux qu'on se dit, ben oui, c'est normal parce que il faut quand même que le gouvernement soit informé de ce que font les éléments dangereux, etc. Et on a comme ça, effectivement, on met en place une espèce d'auto-aliénation. Moi, j'appelle ça le self-service en écrivant, ouais. Évidemment, SERF, c'est-à-dire ce vice de l'auto-aliénation, ce vice de la servitude volontaire que permet magnifiquement ce que j'appelle aussi le technococon, c'est-à-dire cette enveloppe technologique dans laquelle on évolue, qui est constituée du smartphone, de nos écrans, de tous nos outils numériques. Et grâce à ces outils numériques, on a une sorte de rigide contrôle comme ça qu'on exerce sur le monde et sur les autres et qui nous permet ce minimum de réassurance. Donc c'est un phénomène assez complexe et bouclé et qui s'exerce pas simplement verticalement, en tout cas par encore une fois la NSA ou les multinationales. On est vraiment acteur et relais de ce contrôle. C'est ce qui en fait sa force, c'est ce qui fait que ce tissu est très dense aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas une erreur fondamentale là-dedans? Parce que effectivement, on comprend très bien, vous nous dites au fond, si on accepte cette servitude volontaire, c'est parce que on pense échapper à la certitude, c'est parce que on pense qu'on va gagner en sécurité. Dans l'édition d'hier du Monde, le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Jean-Marie Delarue, estime que les libertés fondamentales sont, je le cite, en très mauvais état en France. Je le cite, on n'arrête pas de nous dire que la sécurité est la première de nos libertés, selon une formule désormais consacrée, c'est faux. La sécurité est éventuellement l'une des conditions de nos libertés. Vous êtes d'accord? On est en train de faire de la sécurité une condition de notre liberté alors que c'est l'inverse?
Ah mais parfaitement. J'ai lu cette interview que je trouve, il fait un bien fou, hein, ça c'est clair. Il fait un bien fou. Moi ce que je vois, vous savez, je suis né en 1969, donc j'ai une grande nostalgie de ce qui s'est passé dans les années 70 et ce que les années 70 portaient sur le plan culturel et politique, c'est-à-dire l'idée que la liberté était la valeur absolue devant toutes les logiques sécuritaires, de confort, de réassurance, de conjuration de l'angoisse, etc. Moi, j'ai vu ce phénomène s'inverser. C'est-à-dire que j'ai vu, effectivement, la sécurité devenir la première des valeurs et renier en permanence sur les idées de liberté.
Quand et je trouve ça grave. Quand et pourquoi?
Je dirais que ça s'amorce dans les années 80 et qu'ensuite, ça s'accélère. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des processus de vraiment de moi j'appelle ça de dévitalisation, mais c'est-à-dire que on a troqué une grande partie de cette liberté pour du confort, effectivement, pour une facilité, une fluidité de nos vies. On le voit quand on dit aux gens, mais là, regardez, en ayant le portable allumé, vous êtes géolocalisé, vous pouvez être suivi, vous êtes en manif, si on veut savoir ce que vous faites, on le saura. Éteignez vos portables, venez sans les portables, etc. Les gens veulent pas le faire parce que les portables, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fluidifie tellement la vie, ça nous permet de nous orienter, ça nous permet de regarder l'agenda, ça nous permet d'accéder au réseau, etc. Ça nous permet d'appeler n'importe qui, n'importe quand et d'être appelé. Moi, je refuse le portable, mais donc il y a un troc, il y a une espèce de trade-off comme ça, il y a un arbitrage entre nos libertés et nos et la fluidité de nos vies. Et pour l'instant, c'est l'envie de fluidifier nos vies qui l'emporte. Et d'avoir cette espèce de petite conforteresse autour de nous. Quoi.
Oui, mais je vous repose la question, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de mobilisation? Non, je vous en prie. Je reprends l'interview extrêmement intéressante, je suis d'accord avec vous, de Jean-Marie Delarue hier. Il dit, je le cite encore, « Il y a 30 ans, lorsque l'on touchait à une liberté fondamentale, des pétitions circulaient, des intellectuels s'indignaient, des citoyens se mobilisaient. Aujourd'hui, on entend peu de protestations. Pourquoi ce silence ?»
Parce que, voilà, moi, la sensation que j'ai, déjà, il y a une acclimatation. C'est-à-dire que, d'un point de vue, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect architectural, même dans mon livre, c'est-à-dire de voir comment l'espace est occupé et comment on circule d'un espace à un autre. Par exemple, quand j'imagine dans ma société que pour passer en zone privilège, c'est-à-dire des zones où n'importe qui, où on a accès à toute la ville, on passe par des SAS, des drones surveillent ces zones. Moi je suis frappé, je vais vous donner un exemple très, très simple, très bête, mais avant, quand je prenais le train, j'arrivais sur le quai une minute avant et je rentrais dans le train. C'est une sensation de liberté extraordinaire. Vous arrivez, vous baladez sur le quai est ouvert et vous rentrez dans le train. Aujourd'hui, il y a des portillons partout, par exemple. Pourquoi? Pour des raisons économiques, etc. Et le fait que le quai soit bloqué et que je sois obligé de passer par un sas pour rentrer sur le quai, je sens physiquement une contrainte. C'est une réduction de ma liberté de circuler. Et on le sent. Et pourtant, là, déjà en un mois, je me suis habitué. Je me suis habitué à badger, c'est pareil dans le métro, on s'est habitué. Je me souviens dans le métro, au début, il y avait juste un petit, comme ça, tourniquet. Et puis le tourniquet, on l'a doublé avec une porte. Et au début, je disais, mais c'est super pénible de passer le tourniquet à la porte. Pareil dans les immeubles, encore un exemple incroyable. Avant, vous rentrez dans un immeuble, vous arrivez à un immeuble, vous ouvrez la porte, vous rentrez. Aujourd'hui, il y a un code sur le portique, il y a un code d'entrée de l'un de l'immeuble, parfois il y a trois codes pour accéder à chez quelqu'un. D'accord? Donc ces réductions, de degrés de liberté, parce que c'est des degrés de liberté qu'on a perdu, on s'y habitue, il y a une acclimatation à ça. Et pourquoi on accepte cette acclimatation? Parce qu'on nous vend l'idée que on va être un peu plus en sécurité. Or, le phénomène, et vous l'avez pointé, c'est qu'il y a un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus vous vous protégez, plus le sentiment d'insécurité et de peur augmente. C'est-à-dire que moins vous vous confrontez à l'altérité, moins vous vous confrontez aux dangers, aux menaces, moins vous acceptez que des événements inattendus puissent survenir, et ben plus quand ça survient, vous êtes terrorisé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène de surprotection qui se paye par un accroissement du sentiment d'insécurité. Et c'est ça qu'il faut casser, cette boucle-là et ce cercle vicieux-là qu'il faut briser, en retrouvant un rapport à l'inattendu, à l'impromptu, à la rencontre.
Ce qui est extrêmement difficile, parce que vous le dites vous-même, je me sens parfois contraint, alors même que je crois que vous n'êtes pas du tout sur les réseaux sociaux, je crois que vous n'avez même pas de portable, donc vous essayez de conserver un peu cette liberté-là.
Je fais partie des 2% qui n'ont pas de portable.
Comment est-ce qu'on fait maintenant, Alain Damasio? Et là, je vais revenir peut-être à votre ouvrage, Les Furtifs, qui paraît aux éditions La Volte. Il y a dans votre livre, on est dans cette société, cet univers de la surveillance généralisée, mais malgré cela, on voit émerger des mouvements de contestation, mouvements même insurrectionnels, avec ce que vous appelez des zones autogouvernées, où tentent de s'inventer précisément de nouveaux modes de vie et d'organisation. Est-ce que c'est par cela, finalement, que passera le salut? C'est-à-dire des révolutions locales, parcellaires, fragmentaires, qui petit à petit pourraient s'étendre et transformer in fine le système global? C'est ça que je dois comprendre?
Oui, en tout cas, c'est effectivement ma conviction et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. C'est-à-dire que, vous savez, quand Sartre disait que le communisme était l'horizon indépassable de notre temps à l'époque, nous, aujourd'hui, c'est le capitalisme, malheureusement. C'est-à-dire que c'est vraiment un système totalisant, sans être totalitaire, mais totalisant. C'est-à-dire qu'il couvre absolument tous les champs sociaux. Et on peut pas le retourner d'un seul bloc. C'est encore le mythe à la gauche, à l'extrême gauche, etc., de dire une seule révolution pourrait retourner ça, renverser ça, comme ce rêve, voilà, si on mettait une balle dans la tête de Macron, alors tout changerait. Évidemment, rien ne changerait, parce que le système est bien plus complexe et tissé que ça. Donc, pour qu'il change, il faut qu'on libère des zones, effectivement, et notamment des territoires. C'est pour ça que moi, une expérience comme la ZAD, qui a pourtant concerné un tout petit territoire, m'a paru aussi importante, et pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de...
Vous êtes allé sur place, justement.
Je suis allé sur place, bien sûr,
et observer tout ça
plusieurs fois. C'est parce que on a besoin, sur des territoires définis, localement, et d'un point de vue agricole, et d'un point de vue forestier, et d'un point de vue de l'élevage, et d'un point de vue des marchés, et d'un point de vue de filière bois, de façon de reconstruire des épiceries, des marchés libres, etc. C'est-à-dire que tout le fonctionnement social doit essayer d'être réinventée localement sur les territoires donnés, qui deviennent du coup des laboratoires d'expériences sociologiques, hein, mais concrètes, c'est-à-dire que les gens sont pas là pour s'amuser à vivre autrement, ils vivent autrement, tout simplement, et ils nous montrent d'autres voies possibles. Et donc je pense que sur les territoires, c'est pour ça que je parle beaucoup d'îles, c'est marrant, souvent les utopies sont sur des îles, mais c'est assez logique, parce que sur une île, il y a une communauté qui peut se former, et on peut déployer quelque chose d'assez fort.
Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous proposez finalement quelques pistes, l'occupation de toits d'immeubles, des îles précisément, des forêts, bref, des petits territoires comme ça. Sauf que quand on sort de la science-fiction et qu'on revient à la réalité, le plus souvent, sur le terrain, ces occupations sont extrêmement difficiles, parce qu'évidemment, les autorités cherchent à déloger les militants, tout simplement, notamment parce qu'il s'agit de terrain privé. Donc, comment faire accepter ce phénomène d'occupation en échappant à cette opposition frontale avec les autorités dont les activistes sortent le plus souvent perdants? Comment faire, au fond, pour pérenniser ces occupations, pour que ces laboratoires, c'est vous qui avez utilisé cette formule-là, se transforment réellement en des lieux de vie alternative pérennes?
Ouais, tout à fait. Mais il y a une solution extrêmement simple, en réalité, c'est qu'il faut acheter des terrains. Voilà, il faut acheter des hectares. Donc soit des hectares de forêt, soit des hectares... Il y a des endroits où les hectares sont extrêmement peu chers. Et moi, un de mes rêves, voilà, si un jour je devenais un peu plus riche et que je vendais des millions de livres, un de mes rêves, ça serait d'acheter, par exemple, 200 hectares dans une zone, voilà, dans une zone rurale, mixte entre forêt et champs, etc. Et là, sans besoin de se battre contre la police en permanence et sans risque d'être délogé en permanence, de permettre à des gens de s'y installer, de développer des choses, de permettre à des migrants notamment de venir, de développer des modes architecturaux qui soient nouveaux, de développer des modes de fonctionnement sociaux qui soient nouveaux, mais qui existaient avant, hein. C'est pas qu'on réinvente la roue, hein. C'est simplement que quand on regarde de façon anthropologique, il y a plein de façons de vivre de façon communautaire qui sont riches, qui sont magnifiques, qui sont fortes et qui échappent à cette logique du tout libéralisme dans lequel on est piégé aujourd'hui, voilà, et on est aligné aujourd'hui.
Mais on peut gagner cette bataille en achetant des petits territoires dans votre ouvrage,
bah, on est
dans
cette... Vous savez, il faut pas...
Non, je vous pose la question parce que dans votre ouvrage, en même temps, je vois là une contradiction. Dans votre ouvrage, Alain Damasio, on est dans cette France de 2040, dans un pays qui est dominé par les multinationales, qui n'hésite pas à racheter des villes entières, vous le disiez tout à l'heure, Paris appartient à LVMH, Cannes à Warner, etc., etc. On privatise l'éducation, on privatise les espaces urbains, on donne même les noms de ces entreprises aux enfants pour toucher des royalties. Alors... comment gagner cette bataille face à ces géants qui, de toute façon, sont aujourd'hui quasiment plus puissants que les États? Alors, on va acheter ça et là des terrains, mais on ne peut pas gagner cette bataille.
Paradoxalement, ce capitalisme-là ouvre énormément de brèches. C'est-à-dire qu'il se concentre sur les régions, les villes, les zones qui sont les plus rentables. Et il délaisse le reste. Et dans ma fiction, qui est une utopie pour moi relativement concrète, c'est qu'effectivement les villes pas intéressantes de parce que oui, racheter Paris c'est intéressant, racheter Cannes c'est intéressant parce que c'est la capitale du cinéma, racheter Lyon parce que c'est riche, c'est la capitale de la gastronomie, on a Nest-Lyon qui voilà, là ça vaut le coup. Mais est-ce que racheter Niort ou racheter une petite ville comme La Chapelle-en-Vercors ou juste un intérêt? Non. Et donc ça laisse des espaces ouverts, disponibles pour préparer et développer justement des utopies. Mais encore une fois, ça ne sera pas d'un seul coup de baguette magique, il faut être très concret. Hein. C'est pour ça qu'il faut commencer doucement et il faut surtout commencer là où on est puissant. Moi, j'aime beaucoup un auteur comme Miguel Benassaya, qui est à la fois un psychanalyste et un militant et un philosophe aussi, et qui dit « Développons les combats là où on a une force, une puissance, dans les endroits où on est. » Si vous êtes dans un lycée où la réforme Blanquer arrive, eh ben c'est là que vous allez développer d'autres façons d'enseigner. Vous allez utiliser les méthodologies Freinet, par exemple. Moi, j'adore l'éducation de type Freinet, qui est un mode d'éducation populaire. Vous pouvez l'appliquer en lycée, vous pouvez l'appliquer en collège, vous pouvez l'appliquer à la maternelle. Vous pouvez, à l'endroit où vous êtes, développer des formes d'éducation qui sont différentes. Et c'est partout pareil. Voilà, vous êtes agriculteur, vous pouvez développer une agriculture industrielle et extrêmement polluante, bourrée de pesticides, ou au contraire développer effectivement des formes biologiques. Donc c'est des choix individuels, mais aussi collectifs, hein, puisqu'il faut le faire ensemble. Plus vous le faites ensemble et plus vous le faites en faisceau, mieux c'est. Mais les possibilités, elles sont toujours là. La puissance, elle est toujours là. La vitalité, elle est toujours là. Moi, je suis très optimiste sur ce genre de choses. Simplement, il faut arrêter de croire que au lendemain qui chante. Moi, je dis, il y a une phrase que j'adore dans mon livre, c'est celle-là, c'est de dire. Il n'y a plus de lendemain qui chante, il y a des aujourd'hui qui bruissent, voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire bruisser les aujourd'hui qui sont déjà là, dans plein de zones. Il y a plein d'expériences magnifiques qui existent. Simplement, et ben, il faut les déployer, il faut prendre du temps dessus et politiquement s'y engager pour que ça, pour que ça naisse. Donc ça viendra, mais voilà, il faut être patient. Et puis il y a des périodes historiques qui sont des périodes d'hiver. Moi, je trouve qu'on est dans une période d'hiver un peu historique, effectivement, c'est-à-dire frileuse comme période, alors que les années 70, par exemple, étaient des périodes, j'ai envie de dire, de printemps, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus vitalistes qu'on l'est aujourd'hui. Ça reviendra, et peut-être que c'est en train de revenir par les gilets jaunes, par les ZAD, par...
Qu'est-ce qu'il faut pour que ces bruits finissent par se diffuser à l'ensemble du monde? Qu'est-ce qu'il faut pour que ces marches finissent par l'emporter sur le système global? Parce qu'au fond, ce que vous remettez en cause, c'est le système capitaliste et même techno-capitaliste dans lequel on se trouve. Pour renverser ce modèle-là, on a compris, ça se fait par une logique de reprise des territoires de façon un peu parcellaire et puis une montée en puissance pour, à la fin, finalement, faire tomber ce modèle. Si je vous comprends bien, c'est un peu ça l'idée. Mais qu'est-ce qui va faire que on va passer justement d'une dynamique un peu marginale, à la marge, à une dynamique générale? Est-ce que ça va se faire par la raison? C'est-à-dire, tout simplement, il va y avoir un moment où il y aura une prise de conscience collective. Et par quoi est-ce qu'elle pourrait se faire? Ou est-ce que c'est autre chose? Enfin, comment ça se passe?
En fait, moi, je crois que c'est les trois à la fois. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est là qu'on revient à la littérature, mais aussi au cinéma, aux séries télé, etc., il y a effectivement une première couche qu'on a trop utilisée et qui pour moi s'épuise, c'est la couche rationnelle. Voilà. On le voit dans l'écologie comme dans les luttes sociales. C'est-à-dire qu'on a beau analyser, j'ai beau vous expliquer que par exemple Bernard Arnault pèse 3,2 millions de SMIC chargés, c'est rationnel, ça va pas vous créer forcément un choc psychologique, émotionnel qui va vous donner envie de lutter. Donc c'est pareil en écologie, si je vous dis voilà, vous prenez l'avion, c'est 280 grammes de carbone au kilomètre ou je sais pas quoi, ça va pas vous parler. Donc la rationalité, notamment les tracts militants, les livres d'analyse sont nécessaires, ils sont importants pour les prises de conscience mais ne suffisent pas. Et là où on a un rôle à jouer pour moi, en tout cas un rôle politique, en tout cas un rôle de conscientisation en science-fiction et en littérature au sens large, c'est que nous, on a un miracle qu'on peut opérer, c'est qu'on travaille sur des récits sur lesquels il y a des personnages, on peut créer une identification à ces personnages, on peut faire éprouver au lecteur ce que ces personnages éprouvent, on peut mettre en scène et en émotion et en narration des choses qui sont extrêmement touchante et qui donne envie, c'est-à-dire qu'on peut susciter le désir. Donc pour moi, il y a une espèce de combat des imaginaires à mener ou une guerre des imaginaires à mener par rapport.
Vous sentez une responsabilité sur ce point-là? Ah oui, oui. En tant qu'auteur de science-fiction,
c'est même ce qui m'a amené à écrire. Moi, j'aurais pas écrit si j'avais pas cette sensation-là. J'avais pas que cette sensation par l'imaginaire, on pouvait effectivement faire prendre conscience, faire éprouver aux gens ce que serait un monde meilleur. Voilà, ce que serait un monde qu'on appelle aujourd'hui utopique, mais qui est parfaitement réalisable, qui est parfaitement viable. Donc moi, dans mes livres, ce qui m'intéresse, il y a un fond dystopique, vous l'avez rappelé, effectivement, l'ultralibéralisme. Mais à la rigueur, dans ce livre, Les Furtifs, pour moi, il est très secondaire, il est vraiment filigrane. Ce qui m'intéresse plus, c'est de donner envie, c'est d'empuissanter les gens, c'est-à-dire de donner aux gens l'envie, non seulement de se battre, mais de construire, voilà, des alternatives, une société différente, etc. Et ça, c'est par les imaginaires que ça passe. C'est-à-dire que c'est en voyant des personnages vivre ces choses-là et le vivre de façon positive, de façon riche, de façon intense, que vous allez donner aussi envie aux gens d'y aller, quoi. Et ça, je trouve qu'on manque d'imaginaire de l'utopie, d'imaginaire de l'accomplissement, de l'épanouissement par un autre mode de vie. Donc c'est un des combats. Mais c'est pareil en série télé, c'est pareil en jeux vidéo, c'est pareil au cinéma. Les artistes ont une responsabilité pour mettre en place ces imaginaires-là et les opposer aux imaginaires très fermés du technocapitalisme.
Et nos régimes démocratiques n'ont pas la capacité précisément de se défendre contre cette surveillance généralisée et d'enclencher cette transition?
Moi, je trouve qu'il y a des résistances un peu partout. On peut parler de la quadrature du net, on peut parler du défenseur des droits.
Mais nos régimes démocratiques?
Voilà. Les régimes, c'est toujours pareil. La démocratie, on le dit toujours, elle s'use quand on s'en sert pas. C'est-à-dire que la démocratie, c'est un combat quotidien, permanent. Et dès qu'on sombre dans l'idée qu'on est en démocratie et que ça suffit et qu'on est dans le confort démocratique, eh ben c'est là qu'on passe en ce que j'appelle en démocrature, quoi, c'est-à-dire qu'on passe dans un régime mixte qui n'est plus vraiment de la démocratie et sur lequel progressivement les pouvoirs qui sont en place nous grignotent et nous vampirisent de la liberté. Donc si on n'est pas conscient de ça, ben très logiquement les pouvoirs en place qui sont extrêmement virulents, qui sont là pour des raisons qui sont malheureusement malveillantes, vont progressivement s'installer. Donc c'est à nous d'être conscients, de résister. Et encore une fois, les gilets jaunes dans ce cadre-là ont été une divine surprise parce qu'ils ont montré que des gens qu'on croyait pas conscients de ces enjeux-là l'étaient, quoi.
Alain Damasio, tout à l'heure, on a passé un extrait de Gilles Deleuze, qu'évidemment tout le monde connaît. Je vous propose un nouvel extrait d'un homme qui a été aussi très important pour vous, mais qu'on connaît peut-être moins. C'est Baptiste Morisot, qui est philosophe, écrivain, auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Sur la piste animale » qui était paru chez Actes Sud. Il va nous raconter sa rencontre avec un loup.
Le souvenir le plus marquant dans ces séquences de pistage, Mais c'est peut-être la première fois que je suis tombé sur un loup. Je vois quelque chose qui monte sur moi à toute vitesse et très silencieux, alors qu'autour il y avait tous les chiens de protection qui hurlaient. Et je le vois à peine, il s'arrête à 30-40 mètres de moi et on se fixe quelques secondes. Et ensuite il disparaît. Et ce qui est drôle, c'est que ce qui me vient à l'esprit à ce moment-là, c'est on s'est rencontrés d'homme à homme, ce qui est parfaitement absurde. Et j'essaie de comprendre pourquoi j'ai eu ce sentiment-là. Et une des raisons, c'est parce que c'est vraiment rencontrer un animal sur son trajet propre. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai commandé la rencontre, j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui m'a rencontré. La rencontre avec des animaux potentiellement mangeurs d'hommes, ça a un effet philosophique assez profond qui est que ça nous rappelle qu'on est aussi de la viande. Et en fait, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que je crois qu'on est une civilisation qui a essayé d'occulter le fait qu'on est aussi de la viande. Parce que c'est une manière de nous faire croire qu'on s'est extrait du vivant.
On s'est extrait du vivant, nous dit-il, Alain Damasio. C'était donc Baptiste Morisot, philosophe, auteur notamment de Sur la piste animale. Vous nous dites un peu, parce que je crois qu'il a été important pour la construction même de votre roman, qu'est-ce qui vous intéresse dans son activité de pistage? De pistage,
oui,
il y en a beaucoup dans votre ouvrage.
Ça a été une rencontre extraordinaire que j'ai fait vraiment par hasard avec lui. Il était à Marseille, moi aussi, et il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé sur le livre, non seulement à réfléchir, mais à aller plus loin. Et surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que j'avais une perception écologique assez banale, de dire, voilà, il faut renouer avec la nature. Et lui, en fait, il m'a fait passer de la nature au vivant. C'est-à-dire qu'il m'a inscrit dans une dynamique où il m'a fait comprendre que le vivant était en nous, mais aussi hors de nous, bien sûr, et que cette partie en nous était fondamentale. C'est-à-dire qu'on était un feuilleté de capacité animale, capacité cognitive, notamment animale, et qu'on était le produit de cette évolution-là. Et que c'est à cause de ça et grâce à ça qu'on pouvait aussi se reconnecter avec le vivant. Donc le pistage est une activité extraordinaire pour ça, parce qu'elle vous permet de voir la présence des animaux et de spéculer sur ce que les animaux font, et donc de se retisser avec cette vie animale et de comprendre que voilà, on fait partie de cet ensemble et qu'on a des liens tout autant avec le loup qu'avec l'insecte, qu'avec le poisson, la rivière, la forêt. Et qu'on est dans ce tissage-là. Ouais.
Et cette activité de pistage, justement, on est plongé directement dedans, dès le début de votre roman, Les Furtifs, qui vient de paraître aux éditions La Volte. Alain Damasio, merci beaucoup d'avoir été avec nous.